Bonjour. Les religions n'ont peut-être jamais fait autant la une des journaux et suscité la curiosité des médias qu'aujourd'hui. Le spectre du fanatisme religieux ressurgit lors des attentats terroristes du 11 septembre, hante et inquiète les esprits. Dans la foulée, toutes les religions ont été plus ou moins suspectées d'être des foyers congénitaux de haine, de violence. Les religions sont-elles encore recommandables? Ont-elles encore un avenir? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre à partir de ce dimanche et jusqu'au 30 décembre. Nous le ferons en conviant à ce micro des spécialistes des grandes religions ou spiritualités concernées, à savoir l'islam, le judaïsme, le christianisme et le bouddhisme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de l'islam avec M. Mohamed Harkoun. Né en Kabylie, il a étudié à la faculté des lettres d'Alger, puis à la Sorbonne, dont il est aujourd'hui professeur émérite. Auteur de plusieurs ouvrages sur la pensée arabe et l'éthique musulmane, dont le rayonnement dépasse largement le cadre français, Mohamed Harkoun dirige la revue Arabica. Depuis longtemps, avec la persévérance du pionnier, il milite pour le dialogue des cultures, notamment celles qui ont pour berceau commun la Méditerranée. La revalorisation de l'enseignement des religions à l'école et à l'université est aussi un de ses chevaux de bataille. Et pour lui, c'est un moyen de lutter efficacement contre les dérives intégristes qui travaillent toutes les religions et en particulier l'islam. Pour interroger Mohamed Harkoun, nous a rejoint ce matin à notre micro Anne-Paul Derzanski, journaliste indépendante dans la presse juive et qui a été pendant très longtemps, qui est toujours d'ailleurs spécialiste du monde musulman.
Mais une petite précision, j'ai été 6 ans dans la presse juive et je suis aujourd'hui journaliste indépendante, pas seulement dans la presse juive.
D'accord, vous êtes toujours journaliste, la précision s'imposait. Je passe maintenant la parole, comme d'habitude, à Jean-Luc Mouton, qui va donc poser la première question à Mohamed Harkoun.
D'abord, bonjour Mohamed Harkoun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
Il est partagé. Effectivement, on parle beaucoup de l'islam en France et ailleurs depuis ce fameux 11 septembre. Vous n'avez pas attendu le 11 septembre pour condamner cette espèce d'islam dévoyé et fanatique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être plus le sort de l'islam dans ce pays, en France. Vous savez qu'il y a une consultation qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur après moult tentatives pour installer l'islam dans ce pays. Et on a quand même un peu l'impression que l'islam n'est pas complètement installé en France, que l'islam ne fait pas complètement partie des mœurs de notre pays. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que l'islam n'est pas encore aujourd'hui une religion complètement française et intégrée à la vie de ce pays?
Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons très anciennes de l'exclusion de l'islam du champ de la vérité religieuse, puisque à Médine même, lorsque le prophète Mohammed parlait de l'islam, il a eu en face de lui immédiatement des refus, des fins de non-recevoir de la part de communautés juives. Il y avait des juifs et il y avait des chrétiens en Arabie, à Médine en particulier.
Bon, ça c'est une vieille tradition.
Absolument, elle est dans
c'est
le Coran.
Une vieille histoire.
Elle est dans le Coran. Le Coran a des pages entières de polémiques, car il est polémique, vis-à-vis de ceux qui refusaient le dernier état de la révélation, comme le Coran présente la révélation avec le prophète Mohammed. Donc il y a eu déjà là non seulement une séparation, mais une fin de non-recevoir. Et puis ensuite, il y a eu les conquêtes très rapides, qu'on appelle les conquêtes arabes. Le prophète est mort en 632, et en 732, les Français connaissent la bataille de Poitiers. Donc en un siècle, vous voyez le parcours en un siècle qui, évidemment, partout va rencontrer le christianisme. Mmh. Et partout va rencontrer le judaïsme dans l'espace méditerranéen. D'où l'importance que je donne à une histoire réécrite de ce que j'appelle l'espace méditerranéen, de l'Iran, de la France, l'Indus étant la frontière qui sépare le monde méditerranéen. Et quand je dis le monde méditerranéen, ce sont toutes les cultures de ce monde, les cultures religieuses.
Mais ce n'est pas une fatalité, on dirait que c'est une fatalité historique.
Non, ce n'est pas une fatalité, ce sont les cultures qui accompagnent ou n'accompagnent pas les religions. Car je dis tout de suite que la grande affaire, la très grande affaire, c'est que les religions ne sont pas toujours accompagnées par une culture qui éclaire les problèmes soulevés par les fonctions qu'exercent les religions dans toute société. Alors, vous avez des moments favorables. Par exemple, pour l'islam, le 9e et le 10e siècle de l'ère chrétienne ont été des moments de lumière. Mmh. Toute proportion gardée historiquement, ce sont des lumières équivalentes. En fonction, pas dans les ouvertures et les inventions, parce qu'on est quand même au Moyen-Âge, mais il y a eu des lumières.
Vous faites allusion à l'Andalousie, à toute cette culture.
Pas seulement l'Andalousie, c'est tout l'Iran actuel, mm-hmm. c'est tout l'Irak actuel, car ces lumières viennent d'Ispahan, viennent de Bagdad, viennent du Caire, viennent de Kerman, etc. Donc il y a eu un moment de lumière. Et l'islam, à ce moment-là, s'exprimait parce que j'ai un livre là-dessus, tout un livre, c'est ma thèse de doctorat, pour passer le doctorat à la Sorbonne, l'humanisme arabe, c'est-à-dire d'expression arabe, ce ne sont pas seulement les Arabes qui ont participé justement. C'est pluriel, c'est une culture plurielle, une culture ouverte. C'est vraiment un moment de lumière. Malheureusement, ce moment de lumière va se trouver éliminé et même oublié par les musulmans eux-mêmes à partir du XIIIe siècle. Alors, vous voyez donc qu'il faut absolument lier le fait religieux aux expressions culturelles. Quand la culture s'appauvrit pour des raisons historiques, économiques, politiques, quand la culture s'appauvrit, comme c'est le cas de la culture dans tous les pays musulmans d'aujourd'hui, paradoxalement, alors que nous sommes au début du 21e siècle, la culture est très pauvre. La culture philosophique qui était à la base de ces lumières dont je parlais au Moyen-Âge a disparu complètement. Elle a commencé à disparaître depuis le XIIIe siècle. Or, la culture philosophique est le soutien fondamental de l'expression religieuse. Si, ça, c'est ma théorie et c'est ma position. Si vous retirez la culture philosophique de la confrontation avec ce que nous appelons les théologies, la théologie sombre dans le dogmatisme et donc dans un pouvoir autoritaire, un magistère autoritaire comme celui de l'Église catholique qui a généré l'opposition en France en particulier avec la montée de la bourgeoisie et qui aboutit à la grande révolution française qui a été radicale et qui justement nous a légué cette position à l'égard du religieux, du christianisme parce qu'il était là, mais du religieux en général. Voilà pourquoi dans notre introduction déjà on emploie toujours nous sommes menacés, le terrorisme revient, le fanatisme revient, le dogmatisme revient, ça c'est des paroles, des lumières vis-à-vis des religions. Alors, les lumières ont accompli une tâche formidable, positive. Mais la politique, l'État moderne a utilisé ces lumières. Et l'a traduit, en France en particulier, en mettant la religion au ministère de l'Intérieur, au lieu de la mettre au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Culture. Ceci déjà nous dit beaucoup.
Bien sûr, ça nous dit.
C'est pour cela que moi, je n'ai jamais participé aux efforts actuels du ministère de l'Intérieur pour rassembler les musulmans, etc., etc. Ce n'est pas l'approche, à mon avis, qui va nous délivrer ou nous protéger de ces dérives idéologiques qui aboutissent à des dérives terroriste affreuse.
Tout à fait. Michel Cole. Oui, hors micro, vous nous disiez tout à l'heure peut-être que de la tragédie et du procès qui accable aujourd'hui l'islam va sortir une lumière, on va aller vers du mieux. Alors, comment expliquez-vous quand même qu'en France, notamment, la France qui a quand même eu des liens avec le monde arabo-musulman pendant des siècles, il y a une telle inculture, une telle inculture crasse, excusez-moi l'expression.
Vous avez de l'islam, vous avez de l'islam. Exactement. Ça aussi, c'est un de mes chevaux de bataille, parce que j'en ai beaucoup. La France a gommé, elle a gommé systématiquement son histoire coloniale. Et nous le voyons très bien avec l'Algérie. Parce que la France perçoit cette page d'histoire qui est la sienne à travers les Lumières, l'humanisme des Lumières, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Alors qu'il faut ouvrir cette page pour expliquer pourquoi la présence française au Maghreb de 1830 jusqu'à 1962 n'a pas pu entrer à l'intérieur de la pensée islamique pour l'intégrer avec les catégories des Lumières. Mais ces catégories, évidemment, fonctionnaient encore une fois de manière davantage polémique et d'une manière méprisante et condescendante à l'égard de la religion, ce que nous faisons encore aujourd'hui, que d'une manière, je dirais, humaniste. Parce qu'il y a une fonction humaniste dans les religions, à condition, je le répète, qu'elles soient accompagnées toujours par une culture critique, et cette critique-là ne peut être assumée autrefois par la philosophie, j'ai dit la philosophie, aujourd'hui je dis plus en, avec la philosophie, l'anthropologie culturelle. Sans ces deux sciences, et, ou ces deux disciplines, nous ne pouvons pas traiter équitablement la question religieuse. La question n'est donc pas quel est son avenir ou pas son avenir. Pour moi, l'avenir, c'est une culture qui intègre les religions comme dimension à la fois culturelle, spirituelle, intellectuelle de notre présence de l'histoire en tant qu'acteur de l'histoire. Voilà l'avenir. Ça n'est pas du tout sur antenne-là ou pas, et nous sommes-nous menacés ou pas. Vous voyez la problématique que nous voyons partout. Nous sommes inondés, et minoritaires.
Noël Darkoun, justement, dans ce que vous disiez que vous étiez minoritaire, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans l'entrée de votre propos sur la lumière dans l'islam et sur l'humanisme arabe jusqu'au XIIIe siècle. Et justement, dans l'interview que vous avez donnée à Libé suite au rassemblement d'intellectuels qui a eu au Caire en début de semaine, vous expliquiez qu'en fait, si l'islam était en train d'avoir des penchants extrémistes et qu'il avait cette image dénaturée, c'était parce que dans les pays mêmes où il aurait dû se développer, il avait été confisqué par le pouvoir politique, et qu'en fait l'islam qu'on pouvait avoir, l'image qu'on avait en Occident, était un islam en fait confisqué par les États, et que les justement il n'y avait plus de création intellectuelle, il n'y a plus de création philosophique, il n'y a plus de création anthropologique, puisque même les intellectuels arabes qui pourraient être indépendants ne le sont pas, comme les médias arabes, dites-vous, qui sont tous plus ou moins coiffés par l'État, même quand ils se déclarent indépendants. Alors, aujourd'hui, dans quel pays arabe, ou peut-être dans quelle diaspora arabe, peut-être en France, dans quel lieu pourrait-il y avoir une émergence de cette critique et une reconquête de la lumière de l'islam? Par qui? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des noms concrets? Et peut-être aussi, comment?
Et comment?
Je voudrais les réponses à ces trois questions.
Oui. Je dirais que la réunion de la Ligue, organisée par la Ligue arabe à laquelle vous faites allusion, est un acte nouveau. Et c'est, là, on peut dire à quelque chose malheur et bon.
Voilà.
À quelque chose malheur et bon, bien que le malheur soit disproportionné, bien sûr, mais c'est comme ça. Nous payons toujours très cher par des révolutions, des guerres, quelque chose qui n'advient pas s'il n'y a pas cette brutalité. Et ça aussi, c'est un problème sur lequel nous devons réfléchir autrement que nous ne le faisons. Donc, cette réunion a permis de voir, dans la totalité du monde arabe, nous étions à peu près 80 invités à cette réunion, voir les voix qui s'expriment. Eh bien, on a insisté, par exemple, dans cette réunion, sur la nécessité de l'autocritique. L'autocritique à l'intérieur de la pensée islamique, l'autocritique à l'intérieur de la pensée arabe en particulier, parce que la pensée arabe est enracinée dans cet espace méditerranéen et elle est marquée par les guerres successives où la religion a toujours, les religions ont toujours joué un rôle, elles le jouent encore dans le conflit israélo-palestinien, c'est un rôle considérable, présenté de manière négative, et il faut savoir ce qui se passe. Que des intellectuels arabes disent cela avec précision et le réclament est un fait nouveau. Parce que jusqu'à présent, nous avons eu un discours de victimisation. C'est-à-dire, nous sommes les victimes du colonialisme, nous sommes les victimes de l'impérialisme occidental, etc., etc. Et on ne voyait pas, on ne regardait pas les démissions, à la fois politiques, intellectuelles, culturelles, et même dans la politique économique, politique sociale, les démissions énormes qui nous ont conduits dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Dans la situation où nous sommes, de ces points de vue que je viens de dire, l'islam ne peut s'exprimer que de façon affreuse, c'est-à-dire dogmatique, effectivement, terroriste, hélas. Et donc, il ne faut pas concentrer sur
Alors, est-ce que l'islam a besoin d'un Vatican III, comme on l'a lu dans certaines publications?
Ça fait longtemps que je le réclame.
Vous, vous souhaitez un Vatican III?
Ça fait longtemps que...
Il faut un pape?
Oui.
Mais ça n'existe pas.
Alors là, quelque chose de très important que j'ai personnellement évoqué, comme je ne cesse de l'évoquer, parce que c'est vraiment éclairant. Je dis, l'islam est théologiquement protestant.
Ah oui, vous
et qu'il est politiquement catholique.
Expliquez-vous un tout petit peu.
Oui, eh ben oui, bien sûr.
Comment est-il protestant?
Il est protestant en ce sens qu'un musulman doit participer à l'examen des Écritures qu'a réclamé Luther au sein de l'Église catholique au XVIe siècle, l'examen personnel des Écritures, et qu'aucun musulman ne peut imposer à d'autres musulmans sa seule interprétation.
Ah, attendez, il y a un problème, qui, y a un problème au fond, là, parce que justement, le rapport à l'Écriture dans le christianisme, en tout cas dans le protestantisme, oui, dans le christianisme aussi, n'est pas le même que dans l'islam. La valeur du texte n'a pas le texte n'a pas la même valeur.
Pourquoi ?
Parce que, je veux dire, où le texte est vient du ciel et révélé, et il est intouschable, ou peut être interprété.
On ne va pas entrer dans le statut théologique du texte, parce
qu'il y a une différence importante.
Moi, je veux bien.
Il y a une différence importante entre l'islam et le christianisme, à ce niveau-là.
Écoutez, je peux vous répondre,
mais très rapidement.
Je n'ai pas le temps. Non, il n'y a pas de rapidité.
Non, mais dites-le en quelques mots.
En quelques mots, nous avons à lire des textes. Et lire un texte au début du XXIe siècle, on ne peut pas le lire sans les outils de la linguistique moderne.
C'est la critique historique.
Les médiévaux ont lu aussi le texte avec les outils de la grammaire, des grammaires latines, hébraïques, arabes. Ils ont lu des textes et ils les ont interprétés. Autrement dit, nous sommes toujours dans ce que nous appelons le cercle herméneutique, c'est-à-dire nous sommes toujours face au texte pour l'interpréter. Et c'est ce rapport au texte-là, quel que soit par ailleurs le statut théologique du texte, etc., ce rapport-là, il est vécu dans la liberté des confrontations entre les croyants en ce qui concerne les musulmans et en ce qui concerne les protestants depuis Luther. Tandis que dans le magistère chrétien, nous avons une hiérarchie
catholique,
qui dit comment le lire et qui communique aux fidèles des interprétations des
Écritures. Donc ça n'empêche pas quand même qu'il y ait des théologiens rebelles. Le Vatican II a quand même été enfanté par des théologiens rebelles.
Parce que justement, le texte...
Alors est-ce qu'il y a des théologiens rebelles dans l'islam ? C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a...
Il y en a eu.
Mais est-ce qu'il y en a aujourd'hui ?
Aujourd'hui, alors, ma deuxième... partie de la définition, l'islam est politiquement catholique. Cela veut dire que depuis la dynastie des Omeyyades, c'est-à-dire le premier état qui a émergé au nom de l'islam, l'islam en tant que religion a été confisqué par l'état. Il est dépendant de l'état. Et cette dépendance a été accrue de manière tout à fait considérable et infiniment préjudiciable depuis l'émergence des états musulmans contemporains après les libérations coloniales. Il faut comprendre cela. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les ulamas, donc en gros les théologiens, il y a des théologiens officiels. Et il peut y avoir des théologiens qui ne sont pas liés à l'islam, mais ceux-là doivent pratiquer l'autocensure lorsqu'ils parlent. De même que les intellectuels, qui ne sont pas des théologiens, mais qui sont intellectuels, comme personnellement, par exemple, il faut aussi qu'ils préparent, qu'ils fassent une autocritique. Sans ça, ils vont couper la communication avec les sociétés auxquelles ils veulent s'adresser. Ça, c'est normal. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi.
Justement,
Annie,
merci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a espoir qu'il y ait une rupture et comment cette rupture va pouvoir se concrétiser, sachant qu'elle se fait quand même sous l'égide, vous l'avez dit vous-même, de la Ligue arabe, qui est un organisme politique ultra-puissant qui fédère tous les pouvoirs politiques et qui a toujours été relativement conservateur en matière politique.
Oui, ça, ultra-puissance, c'est un autre problème, on ne peut pas le discuter ici. Mais effectivement, c'est l'union des États arabes. Alors, il y a là la question politique posée au grand jour.
C'est-à-dire, est-ce que vont faire les États,
que vont faire les États après toutes ces critiques dont nous sommes inondés de toutes parts et qui révèlent au grand jour le rôle négatif des États, le rôle négatif des États dans la gestion du religieux. Alors, évidemment, ça, c'est une question politique. Et j'ajoute à cette manière d'approcher le problème, la responsabilité des États de ce que nous appelons l'Occident. Je dis toujours que dans les dialogues euro-méditerranéens engagés par la Commission européenne depuis 1995 à Barcelone, il est urgent que la question culturelle, pour les raisons que j'ai dites au début, fasse l'objet d'une négociation prioritaire avec les systèmes éducatifs qui continuent de fonctionner aussi bien à l'intérieur de l'Union européenne que dans les pays musulmans, en particulier proches comme le Maghreb et l'Égypte, etc. Parce qu'il y a là ce que j'appelle la propagation d'une ignorance institutionnalisée, une ignorance payée par les États à l'égard de la religion.
Parce que c'est libéré.
Parce que quand on dit la religion, c'est le danger. Quand on dit la religion, alors, c'est le fanatisme. Alors, il s'agit d'ouvrir ce dossier, qui est un dossier historique, qui est un dossier intellectuel, qui est un dossier moral, spirituel, qui est un dossier anthropologique. Je refuse de le réduire à cette menace constante qui lie le fanatisme, la violence à la religion. Je refuse cette procédure parce qu'elle est terriblement et terroristement, si je puis dire, idéologique.
Michel Cohen, Darkoum, cinq toutes petites dernières minutes même. On compare un petit peu de la situation de l'islam en France.
On entend bien
votre appel à ce qu'il y ait une autocritique réelle dans le monde musulman. Mais est-ce que cette autocritique, elle n'est pas le devoir aussi des Occidentaux? Parce que vous dites souvent aussi que l'intégrisme est aussi le fait, quelque part, de l'arrogance. Comment voyez-vous l'avenir de l'islam dans la laïcité française? Qui doit faire un effort pour comprendre qui?
Je dis que l'islam, la société française doit passer du côté du ministère de l'Éducation nationale,
déjà,
du côté du ministère de la Culture, du côté du ministère des Affaires sociales, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui sont liés à l'expression de la religion, et cesser d'appartenir au ministère de l'Intérieur, qui est chargé de maintenir l'ordre pour tous les citoyens à égalité. Je le dis très fort, c'est une mutation d'ordre intellectuel, c'est une mutation d'ordre culturel, car je me répète, on n'a pas le droit de réduire les religions au fanatisme alors qu'on leur refuse les soutiens culturels et intellectuels nécessaires pour le faire. Pendant l'affaire Rushdie, j'ai fait une interview dans Le Monde pour laquelle j'ai été presque lynché en France parce que j'ai dit cela.
Merci Mohamed Darkoum de cet appel vibrant. Je ne sais pas s'il sera entendu. En tout cas,
on espère
nous aussi qu'il sera entendu. Je rappelle que vous avez récemment publié aux éditions Jacques Rocher l'islam approche critique et que l'on peut également encore trouver dans les librairies un de vos livres L'humanisme arabe au Xe siècle qui était paru chez Jean Vrin. Oui. Je remercie également notre consoeur Annie-Paul Derzanski, journaliste indépendante spécialiste du monde arabe. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et je rappelle aussi qu'elle a écrit aux éditions Milan un essentiel sur le monde juif que je vous recommande particulièrement. Voilà, des extraits de cette émission seront comme d'habitude publiés jeudi prochain dans l'hebdomadaire Témoignages chrétiens.